Le journal d'Agnès Soubiran. Bonjour Agnès.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'interminable attente au port de Douvres. Des centaines de routiers et de passagers français sont toujours bloqués en attendant de pouvoir passer un test et d'embarquer à bord d'un ferry. Témoignage dès le début du journal. Les autres titres, Agnès ?
Ultime tractation sur la pêche à Bruxelles où un accord sur le Brexit semble imminent. La mission des brigades Covid chargée de suivre l'isolement des cas contacts. Le portrait des trois gendarmes tués hier dans le Puy-de-Dôme. Et puis les préparatifs du réveillon avec des messes qui vont s'enchaîner à Paris et l'ambiance d'un marché en Martinique, sans oublier les commandes passées au petit Papa Noël.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, l'intemporelle Jane Birkin, qu'on est tellement heureux de recevoir ce matin. Et puis à 8h20, deux invités avec nous en studio. Elle est la seule chef doublement étoilée, Stéphanie Lequellec. Elle sera en compagnie d'une voix qu'on connaît bien sur France Inter, notre chroniqueur culinaire François-Régis Gaudry, dont on va déguster au programme de ce grand entretien de la matinale, cuisine, Noël et festivités. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Cela ne se passe pas bien, a résumé hier soir la Fédération nationale des transporteurs routiers. Près d'un millier de conducteurs français sont toujours bloqués dans le port de Douvres, sans pouvoir se ravitailler ni se doucher. Plus les heures passent, plus la possibilité d'un retour à la maison d'ici demain s'éloigne. Car pour embarquer à bord d'un ferry, il faut avoir été testé depuis moins de 72 heures. Certains doivent donc être retestés. C'est le cas de Thibaut, un jeune Français qui travaille en Irlande, coincé à Douvres.
Au bout de 24 heures sur le parking de Douvres, avoir les flics qui font des allers-retours et avoir aucun interlocuteur aussi bien côté français que britannique, parce que la police de l'ordre des frontières n'est pas au courant autant que la police locale ici. Je suis juste fatigué, j'aimerais arriver de l'autre côté, retrouver ma famille et être retesté ou pas, parce qu'on a beau avoir payé un test 160 livres, aujourd'hui on peut le mettre à la poubelle. Les Français ont changé d'avis, il faut être retesté. Juste, si deux voisins peuvent communiquer, ce serait bien en fait. On se moque des problèmes de voisinage français, mais aujourd'hui, la police de l'arrêt des frontières française, elle est de l'autre côté du rond-point, elle ne parle pas à la police britannique et de ce côté-ci du rond-point. C'est juste ridicule, absurde, et à quelques jours du Brexit, on se demande vraiment comment ça va être, quoi.
Témoignage recueilli par Laure Van Ruinbeek. Il faudra quelques jours pour nous sortir de cette situation, a reconnu hier le ministre britannique des collectivités locales. Dans l'autre sens, pour ravitailler les supermarchés du Royaume-Uni, un avion de la Lufthansa a livré hier 80 tonnes de fruits et légumes qui risquaient de pourrir dans un entrepôt de Francfort. La marchandise est arrivée hier dans le centre de l'Angleterre. Cette pagaille depuis trois jours à la frontière entre le Royaume-Uni et le continent a-t-elle pesé sur les négociations sur le Brexit ? Un accord semble imminent. Les tout derniers ajustements sur la pêche ont été discutés durant la nuit et un texte devrait être présenté dans les heures qui viennent. Nous serons en direct de Bruxelles dans le journal de 8h.
7h03 en France, le taux de positivité des tests continue de baisser lentement.
6,4% des personnes testées étaient positives il y a 15 jours, 4,4% avant-hier, 4,3% hier, avec encore près de 15 000 nouvelles contaminations enregistrées en raison d'un nombre important de tests effectués à l'approche du réveillon. Qui dit test positif dit isolement et cas contact. À ce jour, aucune mesure coercitive, mais des dispositifs d'accompagnement médicalisés dans certains territoires. C'est le cas en Île-de-France qui recense une dizaine d'équipes appelées Covisane. Alice Cachaner a suivi la tournée d'une infirmière à Paris. Reportage.
Entrez. Combinaison blanche intégrale, masque FFP2 sur le visage. Alertée par le médecin traitant, ce matin, l'infirmière rend visite à Norbert et Mireille.
Date de naissance 7 janvier 42.
La septuagénaire présente plusieurs symptômes du Covid.
Donc vous avez de la fièvre.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que votre nez coule?
Oui, souvent.
Après les tests, vient rapidement la question de l'isolement, seul moyen de casser la chaîne de contamination.
La main à personne. Je n'embrasse personne. En aucun cas, je pourrais lui transmettre quoi que ce soit.
Si vous êtes tous les deux positifs, eh ben vous êtes confinés jusqu'à lundi prochain inclus.
Moi, je pense, en toute honnêteté, que les deux tests seront négatifs.
Eh ben, je l'espère pour vous.
L'infirmière est là pour faire de la pédagogie.
En ce qui concerne ce monsieur, il a besoin de sortir, de voir du monde, ça se sent dans sa personnalité. Et du coup, pour lui, ça va être compliqué, même s'il a compris.
Si les résultats sont positifs, le couple de retraités recevra un appel du centre Covid pour leur rappeler les consignes de confinement, avec aussi la possibilité de se faire livrer les courses. Un peu moins de 7000 visites de ce genre ont été réalisées depuis mi-mars par les centres Covid coordonnés par l'APHP.
Il aurait fallu le généraliser dans toute la France en fait.
Et le gouvernement y travaille avec le futur recrutement de 1000 infirmiers et 3000 accompagnateurs sociaux.
Allez, au revoir, bonne journée.
Merci à vous aussi, bonne fête à vous.
Bonne fête et bonne nouvelle puisque les résultats de Norbert et Mireille sont négatifs. Bonne nouvelle aussi pour Emmanuel Macron dont l'état de santé s'améliore. Le chef de l'État devrait rejoindre l'Élysée dans la journée. Jean Castex, lui, n'est plus qu'à contact et va passer le réveillon dans son fief des Pyrénées-Orientales. Beaucoup plus exotique pour passer les fêtes de fin d'année, la Thaïlande. Une destination générale très prisée en cette période de l'année, jusqu'à 40 millions de touristes par an. Mais si les plages et les cocotiers sont toujours là, le pays, lui, est méconnaissable. Carole Izou.
Les vagues sur la plage de Koh Samui, une île paradisiaque du sud, sont plus belles que jamais. Mais si l'endroit avait l'habitude d'être pris d'assaut à cette période de l'année, aujourd'hui, on y croit surtout des chats et quelques rares habitants. Beaucoup se sont mis à planter des légumes ou à pêcher dans les eaux désormais cristallines. Partout, les rues sont vides, les magasins fermés. En l'absence de toute aide gouvernementale, beaucoup de commerçants craignent de ne pas surmonter cette crise, comme ce jeune propriétaire d'un bar de plage.
Vous voyez, nous sommes le seul bar ouvert sur la plage. Avant, il y en avait des milliers. Le long de la plage, ce ne sont que des complexes hôteliers. Et là, ils sont tous fermés. Nous, les commerçants, je ne pense pas qu'on puisse survivre si on doit vivre ça encore pendant un an. Sans les touristes, on ne peut pas survivre.
Jusqu'au mois dernier, le pays était officiellement fermé aux touristes. Il vient de rouvrir, mais avec des conditions très contraignantes. Il faut notamment effectuer à ses frais une quatorzaine dans un hôtel avant de pouvoir se déplacer sous contrôle dans le pays. L'annonce d'un vaccin en milieu d'année rassure le secteur, mais certains murmurent que plus rien ne sera jamais comme avant. Les écologistes espèrent que la crise va susciter une réflexion sur les dommages causés à l'environnement et la dépendance économique au tourisme de masse. Koh Samui, Carole Izou, France Inter.
La pandémie dans le reste du monde, devenue première cause de mortalité en Colombie. Le Mexique entame aujourd'hui sa campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Enfin, aux États-Unis, 1 million de personnes ont été vaccinées à ce jour.
La suite du journal d'Agnès Soubiran, la commune d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, durement frappée par la mort de 3 gendarmes.
Les 3 gendarmes qui intervenaient pour des violences conjugales ont été tués hier par un forcené à Saint-Jules. L'homme était lourdement armé et adepte des thèses du survivalisme. Il s'est donné la mort après avoir mis le feu à sa maison. Les 3 militaires appartenaient donc à la compagnie d'Ambert. Ils vivaient dans cette commune de 6000 habitants. Les messages de soutien et les fleurs s'amoncellent depuis devant la gendarmerie. Le chef de l'État a salué des héros. Portrait signé Sophie Parmentier.
Ils s'appelaient Arnaud Mavel, Rémi Dupuis et Cyril Morel. Le lieutenant Morel avait 45 ans. Il était entré dans la gendarmerie il y a 20 ans, sorti de l'école des sous-officiers, puis devenu officier. Il avait pris récemment le commandement en second de la communauté des brigades d'Ambert, à quelques kilomètres du hameau où le forcené l'a abattu, lui et ses 2 collègues. Le lieutenant Morel était un enquêteur pointu. Il était un père de famille aimant. Il avait 2 enfants de 11 et 15 ans. L'adjudant Rémi Dupuis, lui aussi, avait 2 enfants. Une fillette de 7 ans, un petit garçon de presque 2 ans. L'adjudant Dupuis avait 37 ans. Il avait été gendarme mobile, envoyé pour des missions en Guyane. Puis il était devenu un officier de police judiciaire polyvalent. Il venait de suivre une formation sur les violences intrafamiliales. Le brigadier Arnaud Mavel était le Benjamin. Il n'avait que 21 ans. Il faisait partie du peloton de surveillance et d'intervention d'Ambert. Il venait d'apprendre qu'il était admis à un concours de sous-officiers et il s'en réjouissait.
Et puis 8 jours après la disparition de Delphine Jubillard dans le Tarn, la piste criminelle est maintenant privilégiée. Une information judiciaire a été ouverte pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration. Ouvrons à présent, Karine, le chapitre Noël. À quelques heures d'un réveillon qui, c'est vrai, ne sera pas tout à fait comme les autres. À commencer par la messe de minuit qui aura lieu à 16h.
Effectivement.
Même s'il n'y a pas de couvre-feu ce soir, il faut le rappeler. Mais pour respecter la jauge dans les églises, les célébrations vont s'enchaîner. À Notre-Dame de la Compassion, dans le 17e arrondissement de Paris. Par exemple, il y aura 3 célébrations aujourd'hui à 16h, 18h et 20h. Marie-Hélène Héroir.
Les chants de Noël résonneront bien dans la chapelle, 3 fois dans la journée, pour les 3 messes. Ça veut aussi dire 3 sermons à préparer pour l'abbé Christian Lancré-Laval. Il a son astuce.
La base est la même, on varie en fonction de l'assemblée. On fait en sorte que ce soit vraiment un moment de joie. Et si on pouvait, à Noël, justement, leur donner le goût de revenir pendant l'année, ce serait un cadeau de Noël. Mais c'est difficile de pouvoir voir les réactions sur les visages lorsque l'assemblée est masquée.
Timé Abata anime les messes. D'ordinaire, elle s'appuie beaucoup sur l'assistance. Mais dans cette paroisse, il est recommandé de ne pas chanter trop fort pour limiter les projections de particules de Covid dans l'air.
Il est né, le divin enfant.
Avec 200 personnes au lieu de 600 dans l'église et 5 messes qui s'enchaînent entre le 24 et le 25 décembre, la situation est un défi pour la chanteuse.
Il faut que je m'économise parce que, comme je fais toujours à fond, il faut que je me calme sur la première pour que je puisse effectivement avoir la même qualité de voix pour les 3 messes. Mais c'est une joie, c'est le jour de Noël, donc je chanterai même plus s'il le faut, il n'y a aucun problème.
De toute façon, même le curé l'admet, les paroissiens ne pourront pas s'empêcher de chanter.
Voilà, reportage de Marie-Hélène Héroir. Un réveillon avec 6 convives adultes à table maximum, recommandation du gouvernement. Une jauge pas toujours facile à tenir en Martinique, où les festivités de Noël sont l'occasion de grandes retrouvailles familiales, comme l'a constaté Boris Loumagne dans la commune de Rivière-Salée.
30 degrés à l'ombre au marché de Noël de Rivière-Salée. Et ce n'est pas ce que vend Gilberte sur ce stand qui fera baisser la température.
Tout ce qu'il y a comme liqueur. J'ai le gingembre.
À consommer avec modération, sans quoi on pourrait vite oublier que le virus circule encore en Martinique.
Ah, pour nous, il n'y a pas d'épidémie, c'est que nous sommes tous, on aime la Noël en général, alors on fête la Noël. Parce que nous les Antillais, on aime la Noël.
Et cet amour de la Noël, on le sent ici, entre les guirlandes dans les bananiers et les odeurs de jambon grillé.
C'est assaisonné avec du miel, du citron, de l'ail et du poivre.
Me voici chez Marie-Jo, elle est en pleine préparation du repas de Noël et il y a du boulot.
Le 24 au soir, on sera à 16 et le 25 dans la journée, on sera à 18.
Alors ça fait quand même beaucoup de monde, mais pas tant que ça, quand on sait que généralement dans la famille de Marie-Jo,
on peut se retrouver effectivement à 150.
Et puis Dolores, la cousine de Marie-Jo, le promet, la distanciation physique sera respectée.
On a été confinés, on ne s'est pas vus. Donc là, il faut se retrouver, mais bon, tout en gardant les distances.
Une distanciation physique qui reste tout à fait faisable ici, puisque beaucoup de Martiniquais vont pouvoir manger le repas de Noël dans leur jardin.
Mais quelle chance, Boris Loumagne. Et puis, il y a ceux qui ne changent pas, Karine, les listes au Père Noël.
Ah, c'est vrai.
Mais pourtant, là encore, l'épidémie finit toujours par se faufiler.
J'ai commandé une trottinette et un avion télécommandé et c'est tout.
J'ai demandé des Atimals. En fait, c'est des petits trucs en petit animal avec des petites ailes en paillettes. J'ai commandé une voiture qui roule des deux côtés et aussi qui fait de la lumière.
Des Playmobil, des Lego Friends,
des mangas. Et aussi plus du Covid-19,
de voir tout le monde et que le Covid s'arrête, voilà.
Voilà, que le Covid s'arrête.
Vous avez
avis
fait
au Père Noël.
Vous avez
oui,
fait votre
bien
liste,
sûr, bien okay. sûr. Témoignage reconnu par Hugo Charpentier de France Bleu Normandie.
Merci Agnès Soubiran. Dans quelques instants, la fabrique des sons ce matin. Dring, la sonnette du réveil.